Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui respire, qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores, de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE, mais pas que. Vous pourrez aussi retrouver du catch japonais, du catch de la Elite Wrestling et bien d'autres. Aujourd'hui, on est là pour un rendez-vous que vous connaissez bien. Bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Bienvenue dans Friday Night SmackDown du 19 septembre 2021 qui se déroule à Knoxville, Tennessee, USA. Et ça va avoir son importance aux commentaires. La paire habituelle Michael Cole, Pat McAfee. Vous m'avez peut-être identifié, je suis le dinosaure masqué que dis-je. Je suis le Luchasaurus des podcatchs. Je suis votre tonton Chris, tonton catch-up. Et pour m'accompagner, nous sommes en tag team aujourd'hui pour vous faire cette review de Friday Night SmackDown. Une tag team centenaire du haut de cette review, un siècle vous contemple. Et je reçois non pas l'ange blanc des années 70, mais bien l'archange blanc de catch-up, en l'occurrence Géliel. Salut Géliel.
Salut tonton, salut à tous. Et c'est parti pour cette review de SmackDown.
Impeccable, t'as vu ça dans des bonnes conditions, tranquille, au calme, sous un beau temps.
Exactement, tranquille, hier, en plus elle se regarde bien en ce moment, c'est la review de SmackDown, donc on va y aller.
Et bah c'est fantastique, on va y aller, c'est chaud, hein, on est toujours assez sbodir chaque semaine en fait, de tout le star power qu'il y a à SmackDown, mais c'est parce que de toute façon, toutes les semaines, le show commence de la même manière dorénavant, et c'est comme à son habitude, Roman Reigns qui va débuter le show, arriver sur le ring accompagné de Paul Heyman, de Jey Uso, de Jimmy Uso, la Bloodline avec tous les t-shirts qui vont bien. Roman Reigns, il va demander à Heyman d'éduquer, hein, d'entrer, hein, le public de Knoxville, pour qu'il le reconnaisse comme le champion suprême, ce qu'il est bien depuis plus d'un an dorénavant, et ce que va s'empresser de faire le conseil. Il va se demander ensuite pourquoi Finn Balor a fait revenir un peu le démon enfoui, quoi, parce que c'est justement parce qu'il a peur de Roman Reigns. Il va expliquer aussi qu'il connaît Brock Lesnar depuis plus de 20 ans et qu'il a jamais vu dans les yeux de la bête une quelconque peur dans ses yeux jusqu'à la semaine dernière, puisque rappelez-vous, les deux Golgoth s'étaient vus pour un face-off. Là-dessus, ça va finalement assez vite s'arrêter cette prono, puisque Big E va débarquer, le nouveau WWE Champion du show rouge du vaisseau amiral de la WWE, en l'occurrence Monday Night Raw. Mais il est effectivement toujours membre de SmackDown à l'heure actuelle, donc c'est comme ça un peu que ça nous est vendu l'affaire. Et derrière, c'est Finn Balor qui va débarquer et on va avoir d'entrée un tag team match. Donc tout ça, ça va vraiment s'enchaîner. Et on va avoir un tag team match champion versus champion, les amis. Eh bien non, parce que c'est quand même les champions, mais il n'y aura pas Roman Reigns qui va participer à la fête. C'est donc un tag team entre Big E et Finn Balor qui vont affronter les Ouzo. Et c'est parti pour 12 minutes 20. Donc 12 minutes 20 de bon rock'n'roll, hein, les amis. Parce que alors Big E, tu vas me dire ce que t'en as pensé, mon bon Géliel. Mais alors Big E, entre autres, va faire une série là avec Splash sur l'Epron. Derrière, il va enchaîner 3 Belly to Belly. Et il va refaire son splash avec son appui dans les cordes là, où ça va sonner très très fort. Donc je commençais à avoir de plus en plus mal pour les Ouzo. Les Ouzo vont quand même se reprendre et ça va repartir de plus belle avec eux, qui eux déroulent un peu aussi leur routine, mais comme toujours spectaculaire et toujours intense. Les Ouzo, des beaux champions les Ouzo, moi je trouve, hein, de toute manière, à chaque fois qu'ils ont les ceintures, quels que soient les adversaires proposés. Alors là, j'ai presque envie de dire qu'on nous a donné un espèce de match un peu All-Star. Voilà, on nous SmackDown avec une sorte de match de All-Star. À moins que j'ai mal compris, mais pour moi, il n'y avait aucun enjeu de contender par rapport au tag team, etc. C'était vraiment un match, on s'aime pas, on se cherche. Big E, c'est le nouveau champion et il veut aussi un peu montrer que, voilà, il n'est pas là pour la déconne. Et donc, du coup, on va avoir droit à un vrai beau match de catch de 12 minutes 20 que je vous recommande. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Mon bon Géliel, comment l'as-tu perçu de ton côté? Tu l'as vu avec le Millennial?
Oui, je l'ai vu avec le Millennial, qui a apprécié. Je reviens juste deux secondes sur un truc, alors que j'appréciais beaucoup au début, je continue à beaucoup apprécier l'arrivée de Roman Reigns, qui reçoit sa hit, qui va bien. Je me suis posé la question quand même, ça commençait à être hyper long les entrées de Roman Reigns, et je ne sais pas pourquoi j'ai eu un flash avec Undertaker qui marchait à un demi à l'heure aussi, ouais, sur ses dernières rentrées, et je me suis dit, il faudrait peut-être qu'on chronomètre ça, parce que j'ai l'impression qu'on est en train gentiment de se rapprocher des entrées de 10 minutes d'Undertaker avec Roman Reigns, suivi des Ouzo et de Paul Heyman. Donc ça m'a fait un peu rigoler. Sinon, l'intro sympa, le côté avec Paul Heyman qui fait sa promo sur Baylor, sur la peur, sur Brock Lesnar, etc., etc. L'arrivée de Biggie qui chope une belle pop, effectivement. Et puis moi, je trouve ça sympa le fait que, ok, il a caché à Raw, mais il vient à SmackDown. Alors effectivement, il y a la draft qui va arriver dans pas longtemps, mais j'aime assez voir les deux. Puis il tease bien le, enfin il va bien droit dans les yeux avec Roman Reigns. Enfin, je trouve ça assez sympa. L'arrivée de Baylor derrière, très sympa aussi. Et alors par contre, comme tu dis, le match, en fait, on ne sait pas trop ce qu'il y a, parce qu'en fait, il a été plus ou moins conclu pendant la pub. Ce qui fait que quand au retour de la pub, bah, le match, il a déjà commencé. Enfin, il est déjà en train de se lancer. Gros match, hein, vraiment, quasiment, je pense, mon match du SmackDown, sans faire trop de spoilers. Mais vraiment un super match avec une Team Uso qui reste quand même exceptionnelle dans les enchaînements, dans l'entente qu'elle a entre elles. À un moment, il y a quand même, je crois que c'est Baylor qui est envoyé en dehors du ring. Et puis à un moment, il y a, alors je dis Jimmy ou Jay, je ne sais pas lequel, qui tient Baylor dehors. Et pendant qu'il y a un souci de dive qui arrive de l'autre. Enfin, c'est hyper, hyper impressionnant. Et puis la fin avec un gros, gros coup de Biggie, un gros run de Biggie qui termine le match, quoi. Donc non, franchement, super match, vraiment super match, et très content de l'arrivée. Puisque, ah non, c'est très content de ce début de SmackDown.
Ouais, je te rejoins, c'était vraiment cool. Voilà, comme je dis, du super star power pour commencer SmackDown, donc c'est sympa. Un match enlevé et tout, donc Finn Balor, d'ailleurs, quand Finn Balor, je parlais de Biggie tout à l'heure sur le ring, entre les cordes, mais c'était surtout Finn Balor, après, c'est lui qui va amener le coup de grâce à la fin et qui va permettre à Biggie de piner les frangins Uso quand même, puisque victoire de Biggie et Finn Balor, victoire des faces. Et on va retourner tout de suite en backstage où Roman Reigns aura suivi ça un peu dans sa télé comme d'hab, tranquille dans son fauteuil. Il va demander à Paul Heyman s'il n'a pas quelque chose à lui dire, l'autre il lui explique que non, Reigns il va lui demander plusieurs fois. Finalement Paul Heyman il va jurer qu'il était au courant de rien, c'est toujours l'affaire avec Brock Lesnar. Ce qu'il est sûr, c'est que Lesnar a peur de Roman Reigns, et Reigns lui demande surtout, en fait, il se demande s'il va se pointer à Extreme Rules, Brock Lesnar, quoi. Est-ce que vraiment l'affaire va se régler contre lui et Finn Balor, ou est-ce que le Brock Lesnar, il aurait dans l'intention d'interférer? Eman, il lui jure ses grands dieux que non, hein, mais il pense que Lesnar, pour l'instant, va pas se montrer. Term, il explique qu'il le paye pas pour avoir des impressions, mais pour avoir un coup d'avance. Voilà. C'est voilà, quoi. Ça, c'est un truc de patron, mon bon Géliel.
Ouais, carrément. Et puis là aussi, enfin, quand on voit la fin du match où il y a Roman Reigns qui voit toute la sortie, on voit qu'il est, voilà, il fait encore une tête pas possible. Et puis, oui, c'est très, 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 très bon dans sa élitude, Roman Reigns. Il n'y a pas à tortiller, quoi. Il est vraiment très, très bon.
Alors, on va maintenant s'en aller vers un peu la picture intercontinentale. Et alors, la picture intercontinentale, comme vous le savez, c'est le King Nakamura, Shinsuke Nakamura, qui détient la ceinture. Et ces derniers temps, c'est plutôt son poteau guitariste qui bosse, quoi. Rick Books, qui nous fait toujours son entrée spectaculaire pour Nakamura. Mais c'est lui qui est dans un single match engagé face à Robert Roode, accompagné de Dolph Ziggler. Et alors, ça fait déjà quelques fois. Là, de toute façon, ce soir, on va avoir à deux, trois occasions de quoi parler de choses qu'on a un peu déjà vues. Et pour le coup, ce Rick Books versus Robert Roode est un peu une redite. On l'a eu face à Dolph Ziggler. On va avoir un match encore une fois très, très court, puisque c'est la norme aussi à chaque fois, puisqu'on va avoir un match que de 2 minutes. De quoi suffisamment faire briller finalement Rick Books. Mais là, n'était pas l'important. L'important, c'est ce qui s'est passé post-match. C'est qu'après la victoire de Rick Books face à Robert Roode, Apollo Crews et le Commandant Aziz vont jaillir du Diable Vauvert et vont s'attaquer aux deux poteaux du titre intercontinental. Et le roi nigérian va remonter d'ailleurs sur le ring après les avoir un peu balancé sur les tables, sur les escaliers. Enfin bon, on leur a fait un bon beatdown des familles. Et il va tout simplement clamer qu'il veut son rematch pour le titre intercontinental. Alors, j'ai eu juste un petit doute. Est-ce qu'il demandait pour l'Extreme Rules? Je pense que oui, c'est pour Extreme Rules. Mais comme le titre intercontinental, SmackDown, ils aiment bien le faire apparaître en weekly souvent, et des fois avant les pay-per-view. Donc ça serait peut-être pas impossible qu'on l'ait vendredi prochain. Je sais pas. Je vais poser quelques réserves là-dessus, parce que je suis pas forcément sûr à 100%. Mais voilà, du coup, surtout l'info principale, Géliel, de cette affaire, c'est que Apollo Crews est de retour dans le game.
Oui, alors la première partie, c'est ce qu'on avait déjà parlé. Rick Books, il les push très très fort depuis un petit moment. Ce qui fait qu'il prend complètement la lumière sur Nakamura, qui une fois de plus n'a pas foutu grand chose. Je rejoins Papy avec cette feignasse de Nakamura, comme on dit. Donc Books fait un bon match, mais un peu facile face à Rude. Et puis effectivement, la fin avec l'arrivée de Commandant Aziz qui met un énorme big boot sur Nakamura. Apollo Crews qui fait la promo et qui a bien raison en fait de revenir sur ce titre intercontinental parce qu'il n'en fait absolument rien, Nakamura. Et il a tout à fait raison, je trouve, d'arriver tout énervé, tout fâché pour demander un rematch et d'aller chercher ce titre intercontinental. Je trouve qu'il en faisait déjà quelque chose de bien plus intéressant quand il l'avait par rapport à Nakamura. Donc, je suis bien pour qu'il puisse aller le récupérer, ce titre. Voilà. Et la partie Books, certainement qu'il est très athlétique et que c'est il est très sympa à regarder. Mais bon, il s'inscrit dans une histoire qui ne le concerne pas vraiment. Donc, autant qu'on aille au bout de l'histoire entre Apollo Crews et puis Nakamura, quitte à ce qu'après, Rick Books aille venger Nakamura en se faisant un contender sur le titre intercontinental. Pourquoi pas, quoi. Il y a pas... Pourquoi pas.
Ah ouais, bah écoute, là, pareil, on va encore se rejoindre, les grands esprits vont se rencontrer dans cette review, c'est fantastique. Mais parce que je suis complètement d'accord, je suis bien content de revoir Apollo et le commandant Aziz. Je trouve que ça va mettre un peu d'animation dans cette title picture intercontinentale, qu'effectivement Nakamura vraiment n'a vraiment strictement rien fait depuis le début, et que l'attraction dans son duo, c'est Rick Books, et qui marche bien avec le public, hein. Ça marche bien, hein. Des belles pop et tout. On peut signaler un public... assez chaud là à Tennessee là ce soir, surtout qu'il va y avoir des vignettes dans ce SmackDown pour parler, mais monter la hype avec Bianca Belair, qui est la régionale de l'étape et qui est attendue des pieds fermes par tout le public de Knoxville. Et donc du coup il y a une belle ambiance, et au moment de ce segment-là, j'ai presque envie de dire que le public de Knoxville, justement, il est plutôt content de voir Apollo Crews débarquer. Et même si les gens aiment bien Boogs, bon, on sent bien qu'il y a une espèce de... Bah malheureusement, Nakamura, il y a un côté un peu indifférent, on se dit bah il se passe rien, donc bah autant qu'il revienne avec Apollo Crews, qui avait eu un premier règne, comme tu l'as dit, complètement honorable.
Il y a un point sur lequel je trouve avec Nakamura, c'est que son absence de promo, à un moment, ça joue, quoi. On l'entend pas, il dit rien, il est juste aidé ou par chaque fois il y a quelqu'un à côté de lui. Alors ça avait été, je sais pas qui c'est que ça avait été, ça avait pas été Corbin à un moment, ou je sais pas trop quoi, non peut-être pas, là c'est Books qui fait le boulot à côté de lui. À un moment c'est vraiment problématique. Alors il me semblait appris un peu d'anglais pour faire quelques promos, mais là c'est vraiment problématique, il a absolument rien à dire. Donc si en plus il combat pas, voilà, ça n'a aucun intérêt, il a aucun intérêt.
Ouais, tout à fait, ouais. Bon, écoute, après on enchaîne parce qu'on va avoir un match prêt pour un match après quelques pareilles vignettes vidéo de ce qui s'était passé précédemment. On a Kevin Owens qui jure auprès de ses grands dieux, auprès de Kella Braxton, que Happy Corbin va payer pour l'avoir humilié dans son propre show, toujours la semaine dernière, dans le KO Show, et il va lui enlever le sourire qu'il porte depuis quelques semaines. Mais arrivé sur la rampe d'entrée de cette affaire, ça va être vite réglé, puisque Kevin Owens va se faire attaquer direct par Happy Corbin. Le match n'aura jamais lieu. Gros beatdown de la part de Happy Corbin, content de son méfait. Le four va remonter sur le titantron et puis va s'en aller là-dessus. C'était un segment très rapide, hein, mon Géliel. Hein.
Ouais, trop rapide. Et puis Kevin Owens, que j'adore par ailleurs... c'est dommage parce qu'en plus il était très très remonté dans l'interview qu'il avait pré-match, quoi. Bon, il arrive par derrière, Happy Corbin très content de son truc. Décevant parce que du coup il n'y a pas eu de match. Alors on sait pas, ça risque de renforcer la feud, hein, ça il n'y a pas à tortiller, puisqu'on était parti sur quelque chose avec Logan Paul la semaine dernière où on se demandait si c'est Logan ou si c'est s'il allait avoir une interférence, ou alors si c'était Corbin. Avec KO, bah, finalement ça va être Corbin avec KO, voilà, bah, pourquoi pas, ça se construit petit à petit, mais dommage qu'il n'y ait pas eu de match, quoi.
Ouais, moi je suis surtout déçu, je l'ai déjà dit, mais j'ai pas envie de voir Kevin Owens dans cette rivalité-là, moi j'ai envie de le voir ailleurs, donc ça se passe, donc je laisse passer le truc, et puis j'espère qu'on passera à autre chose pour lui bientôt. Allez, on retrouve Paul Heyman, qui est un peu notre fil rouge, hein, de la soirée, qui est en coulisses avec Kella Braxton. Elle a toujours des questions. Donc, elle lui demande s'il est au courant des rumeurs qui disent que Brock Lesnar va être présent à Arrow lundi prochain. Paul Heyman lui répond que bah, lui, il est avec Roman Reigns et pas avec Brock Lesnar. Donc, il s'étonne que Kayla, elle ait des sources comme ça. Il va accuser ensuite, hein, qui est l'impression de la, de tout simplement de le harceler. Et finalement, c'est Biggie qui va faire son, son apparition, qui va faire. Alors, il va. Paul Heyman, il va être assez consensuel dans un premier temps. Il va féliciter le nouveau champion. Il va dire qu'il a pris la bonne décision d'aller chercher Bobby Lashley plutôt que Roman Reigns parce que son encaissement, ça serait peut-être pas passé de la même manière face au chef tribal. Mais Biggie. Ah, va nous hyper sur un petit détail, c'est qu'il va lui répondre, qu'il va le, il verra ça, ils régleront ça au Survivor Series. Mais face à qui ? Roman Reigns ou Brock Lesnar ? On verra bien. Et on, à peine il a terminé sa phrase qu'il va se faire attaquer directement par les Ouzos, comme des gros fourbes aussi, décidément c'était la soirée, sous le regard de Roman Reigns, qui globalement s'en cague complètement, et qui va finalement s'en aller avec le clan pépère, pépère, une fois que le champion WWE sera mis à terre et battu sauvagement, humilié, martyrisé, victimisé, Biggie Géliel.
Ouais, et alors pour commencer là, le, moi les segments Paul Heyman et Kayla Braxton font quand même beaucoup rire. Enfin les deux là, j'ai l'impression que ça, entre le la manière dont Paul Heyman est chaque fois surpris et saute sur place quand il voit Kayla Braxton qui est à 30 cm de lui, enfin je trouve qu'il le fait super bien. Elle qui en sourit beaucoup, lui qui en joue beaucoup. Enfin je trouve que ces deux trucs ça fonctionne super bien. Je trouve ça super sympa. Effectivement, Biggie qui arrive, Heyman qui le félicite mais en mode un peu passif-agressif en lui disant qu'il a bien fait d'aller prendre le plus faible. Donc voilà, très sympa. Et puis derrière le gros big down effectivement des Ouzos et puis et puis Roman qui passe en s'essuyant à limite les pieds sur sur Biggie pour lui faire comprendre peut-être que fallait pas venir aujourd'hui à ce moment-là pendant son pendant sa promo, je sais pas. Enfin bon, on verra ce que ça donne, mais gros beatdown effectivement et Biggie qui est laissé dans un sale état.
Et ouais, clairement. Hein. Et ouais, moi, j'ai bien aimé en fait qu'il parle des Survivor Series parce que ça, ça pourrait nous annoncer un truc là, Team Reigns, Team Biggie ou. Bloodline versus versus New Day, enfin il y a pas mal de possibilités en fait, pas mal de d'options là sur ce truc là. Donc d'entrée moi j'ai fait tilt, je me suis dit ah ça c'est bien ça.
Surtout qu'il a rien, il a rien fermé. Ouais. Il a parlé de Brock Lesnar, il a parlé aussi de Finn Balor, Biggie, enfin tout est ouvert quoi. Donc c'est sympa ça.
Ouais, et en plus, si tu veux, mon soulagement, qu'il parle des Survivor Series comme ça, c'est un petit peu en mode, ouais, on évacue un peu Crown Jewel, quoi, tu vois, quoi. Crown Jewel, ça va compter, mais ça va pas compter, en fait, quoi. Donc, on n'en parle pas et on passe directement sur le pay-per-view qui suivra comme Crown Jewel, qui sera en l'occurrence les Survivor Series, et qui est souvent une période de booking que j'aime bien à la WWE. Il y a des années, ils ont fait des trucs vraiment super. Donc, j'espère que ça part sur ces rails-là. Allez! Seth Rollins, mon bon Géliel. Alors, on parle d'Archange, hein, mais là, on parle de Seth Rollins qui arrive en tenue vif argent, dans un costard incroyable, avec des sneakers incroyables.
Et qui lui va... qui peut porter ça, hein, quand même.
Voilà, il y a, de toute façon, à la WWE, je vois pas d'autres personnages qui se baladent avec des costards pareils. Et il va clamer, hein, haut et fort au public de TLC en se prenant une bronca des familles, une belle hit de Top Hill comme il faut. Il clame à toute la foule qu'il a eu le meilleur match de sa carrière la semaine dernière contre Edge au Madison Square Garden. Et c'est vrai que c'était un énorme match. Je lui ai mis mon top, les amis, la semaine dernière. Et les conséquences ayant suivi le match sont par contre assez dommageables puisque il sait qu'il a entendu une sorte de craquement en fait dans la nuque de Edge pendant le dernier stomp. Comme un espèce de bruit de cafard qu'on écrase sans trop savoir sur quoi on a marché. Il va nous montrer les images aussi du match, hein, Géliel. Hein. Il va te faire souffrir jusqu'au bout, mon ami. Hein. Il va
demander à tout le monde. J'ai détourné le regard, moi. J'ai pas.
Ah, j'imagine que pour toi, ça devait être horrible. Et il a demandé à tout le monde, d'ailleurs, s'il pensait réellement que le match se déroulerait autrement. Il dit, alors après c'est simple, il rejette la faute, hein, puisqu'il dit que tout ça c'est la faute de Edge. Il savait que ça allait se passer tout ça, mais il a quand même décidé de faire face à Seth Rollins. Tout ça c'est à cause des fans qui l'ont poussé tout simplement à aller l'affronter lui, et c'était le mauvais choix. On a un peu des nouvelles d'Edge d'ailleurs lors de NXT, parce que il y avait Beth Phoenix à NXT qui avait expliqué que Edge allait bien. Rollins il se demande s'il sera capable de venir le réaffronter une nouvelle fois, et il offre deux options à Edge. Soit il revient sur le ring pour se faire définitivement terminer, soit lui vient chez Edge, carrément, pour le terminer, devant sa famille. Alors là, attention, Géliel, on touche à la famille. Seth Rollins devient menaçant un peu à la Samoa Joe envers Edge Styles. Oh, Wendy! Donc, n'as-tu pas peur pour la famille de Edge, Géliel, là?
Bah, j'irai pas jusque-là. Et puis, je pense que s'il n'y avait pas eu le Loblo la semaine dernière, enfin bref, on ne va pas refaire l'histoire. Mais bon, bref. Non, mais la promo est encore une fois. Elle est un peu longue, mais elle est sympa, la promo de Rollins, une fois de plus. Quand il va chercher Saïd, il est incroyable pour ça, quoi. Quand il met tout ce qui s'est passé sur le dos du public, sur le dos de Edge, et puis en se disant que c'était évident que ça allait se terminer comme ça, que ça allait forcément se terminer comme ça. Moi, je suis grand fan des promos de Seth Rollins, donc voilà, très super bon moment. Alors, j'avais pas forcément vu là cette partie. Sur NXT, là, je crois, je sais pas pourquoi je l'ai raté. En tout cas, effectivement, qu'il le prenne sur le ring ou chez lui, je sais pas. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, c'était pas fini en fait, et qu'il allait forcément avoir encore un coup pour que, comme il dit, il le finisse d'une manière ou d'une autre, quoi. Voilà, Edge. Et donc, moi, ça me plaît parce qu'on va encore revoir un match, qui sont quand même super bons entre les deux. Donc, voilà, très content de voir la suite et puis une super promo, je trouve.
Une rivalité, effectivement, qui est donc pas finie, quoi, et du coup, qui s'étend sur
partout,
cette année.
De toute façon, je crois.
Ouais, ouais, et ça s'étend sur cette année 2021, et du coup, moi, si tu veux, je suis déjà en train de réfléchir un peu, on est fin septembre, les awards à la fin décembre, là, de catch-up, je me dis que la rivalité Seth Rollins-Edge, elle va faire partie vraisemblablement des plus belles rivalités de l'année, hein. Si on continue sur ce rythme-là, c'est vraiment... ils ont un truc assez incroyable, un programme assez incroyable, tous les deux. Et tout ça, c'est vraiment une histoire de baston entre deux mecs. Il y a jamais eu de ceinture dans l'affaire. Il y a jamais eu, tu vois. C'est vraiment là, on est dans la rivalité pure, un contre un.
Mais avec comme je le disais, avec des éléments un peu de du passé qui ressurgissent, des éléments psychologiques, etc. Elle est vachement, enfin, je trouve qu'elle est vachement riche cette rivalité, mais aussi par le talent des deux à aller chercher des vieux trucs, à faire ressurgir. Je trouve qu'elle est vraiment vraiment sympa, quoi. Et que ce soit in ring ou que ce soit lors des promos, quoi. Donc j'aime beaucoup.
Ouais ouais. Donc elle aura. Je donne juste une précision sur l'histoire de NXT. En fait, c'est parce que pour les gens qui suivent pas forcément NXT, d'ailleurs ils savent, c'est que tout simplement Beth Phoenix, la femme de Edge, c'est la commentatrice avec Wade Barrett et Vic Joseph de NXT. Et c'est pour cette raison que Seth Rollins y fait référence. Voilà, la parenthèse NXT refermée. Allez, écoutez, c'est en ligne la review fantastique qui a été faite par Papy et le patron IRM. Je vous encourage. Elle est en ligne, elle est déjà disponible. Allez, on retourne très très vite fait en coulisses juste pour se rendre compte que Kayla Braxton est avec Becky Lynch, qui est donc présente au show et qui va assurer que Bianca Belair va en finir avec elle tout simplement à Extreme Rules. Là-dessus, on reste avec les filles puisqu'on va avoir un match. Type chouille de Out of Nowhere avec un retour de Zelina Vega et Carmella en équipe, la femme la plus belle de l'histoire de la WWE, qui vont affronter deux blondes, en l'occurrence Tony Storm et Liv Morgan. Sur le coup, j'ai un espèce de doute. Je me suis dit, tiens, et tout, ils veulent relancer un peu le tag team féminin. Pas de chance, un match de 2 minutes 15 où franchement, elles n'ont vraiment mais rien montré, quoi. C'était assez triste, quoi. Vraiment pas de temps, rien du tout. Donc, le match, en fait, vous avez cligné les yeux, vous les rouvrez, et c'était un peu terminé. Donc, c'était un peu dommage. On va dire, c'est l'après-match, encore une fois, qui va un peu amener quelque chose avec Liv Morgan qui va défier Carmella pour Extreme Rules. Et le défi qui, plus tard, va être accepté par Carmella, qui doit quand même passer devant l'infirmerie parce qu'elle est défigurée, la pauvre, et c'est terrible. Donc, avec en sidekick Zelina Vega. Donc, vous voyez par mon play-by-play, de toute façon, que je ne suis pas dans un enthousiasme délirant. C'était pas trop solide sur les appuis, ce truc. Mais peut-être que Géliel l'était un peu plus.
Non. En fait. Moi, Liv Morgan, sur les derniers matchs, je l'ai trouvé vraiment en progrès. J'étais vraiment intéressé de voir ce qu'elle allait pouvoir faire. Après, Carmella, elle peut faire des choses intéressantes, mais elle est tellement exaspérante que j'ai pas envie de la voir. Et Zelina Vega, in ring, ça vaut. Enfin, je trouve que c'est quand même très léger. Tony Storm, Liv Morgan, ça pouvait donner quelque chose. Enfin, j'avais des a priori positifs. Mais par contre, 2 minutes de absolument rien, qui se termine de manière pitoyable avec la pauvre Carmella qui se tient le nez. En plus, on voit qu'il n'y a rien dedans. Enfin, c'est mal fait, mal exécuté. L'idée est pourrie. Enfin, Oh là là, une catastrophe, une catastrophe. Le seul truc sympa, c'est que Liv Morgan, elle arrive quand même à haranguer Carmella en lui disant qu'elle va lui faire fermer sa bouche une bonne fois pour toutes. Donc ça, ça nous promet quand même un Morgan contre Carmella prochainement, on va dire. J'ai pas retenu si c'était la semaine prochaine ou si c'était sur un des pay-per-view. En tout cas, moi, ça me dit bien de revoir Liv Morgan parce qu'elle avait fait des choses intéressantes et puis je la sentais vraiment en progrès. Carmella, avec sa voix insupportable également, j'ai pas envie de la voir, mais in-ring, elle vaut un peu plus que sa voix et que son comportement, donc, enfin, que son personnage actuellement. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Voilà.
Ouais, après, le seul truc pour le rendre un peu plus intéressant, il faudrait tout simplement que Natalia et Tamina se baladent aussi un petit peu du côté de SmackDown de temps en temps pour faire chauffer un peu les ceintures féminines par équipe. Et puis là, ça prendra un réel intérêt, ça peut à la tag team division féminine, quoi. Pour l'instant, c'est un peu tout seul dans le désert, tout ça, quoi. C'est un peu ça que je reproche, moi. Donc, pourquoi pas, à l'occasion, faire venir les championnes par équipe.
Et est-ce que tu veux qu'on enchaîne directement avec le deuxième segment quand elle est à l'infirmerie? Parce que du coup, je dis des
bêtises. Oui, si tu veux, oui.
On a la réponse, du coup, en fait.
Oui, on a la réponse, oui.
Voilà. Bah, vas-y, vas-y.
Vas-y, je te laisse le dire, vas-y.
Bah, en fait, après, on voit donc Carmella qui a finalement absolument rien, comme on disait, avec même s'il y avait Zelina Vega qui est très attentionnée. Et donc, il y a Adam Pearce et Sonya Deville qui sont là. Et on voit qu'elle accepte, en fait, le défi de Morgan. Et voilà. Mais par contre, je crois que c'est à ce moment-là où Zelina Vega dit qu'il faudra qu'elle affronte d'abord Zelina Vega, Liv Morgan, avant d'affronter Carmella. Voilà.
Voilà.
Voilà. Bon, voilà. Bon. Moi, ça, par contre, c'était parfaitement dispensable. Je pensais pas qu'il y avait besoin de marcher sur Zelina Vega avant, mais bon.
Vous le sentez, peuple de catch-up, on est dans une grande passion là.
Complètement.
Voilà. Allez, on retourne en backstage où on va avoir un Monte Sport qui est en feu en coulisses, hein, qui est carrément en train de prendre feu au rideau. Tout simplement parce qu'il y a sa femme ce soir, Bianca Belair, qui est chez elle ce soir, à Knoxville, Tennessee, qui vont pouvoir célébrer ça, qui vont faire une grosse teuf des familles. Il va clamer quand même aussi au passage, hein, que lui et Angelo Dawkins, ils ont envie de reprendre les titres par équipe. De l'autre côté, il y aura Finn Balor qui va passer aussi dans un petit paquet de vidéos qui raconte que lui, il vient pas d'une famille de catch, un peu comme les Roman Reigns et les Usos. Lui, s'est battu pour en arriver là et que le démon apparaît pour venir se venger de tous ceux qui lui ont dit non, qui lui ont refusé le succès. Et ça va libérer sa rage et qu'il va pas pouvoir la contrôler, hein, comme souvent quand il est en démon. Et quand le démon veut venir, il le fait et il sera là à Extreme Rules comme champion universal. On va avoir un joli morphing, hein, du passé. Transformant. Et dernier petit stage avant que je te passe la parole, moi je laisse, c'est juste Naomi, hein, qui vient pour à peu près la 60, comme à chaque fois, la remballe. Et la renvoie dans ses 22. L'ancienne Omar, elle lui rappelle d'ailleurs qu'elle est là depuis plus longtemps que Sonya Deville. Qu'elle sait ce qu'il faut faire pour avoir un match. Alors, bah,
elle lui rappelle aussi qu'elle a un palmarès, elle aussi.
Oui, elle lui rappelle qu'elle a un palmarès, exactement. Elle lui rappelle qu'elle est quand même former champion à Friday Night SmackDown et qu'il ne faut quand même pas déconner et trop pousser mémé dans les orties. Donc, hein, ça suffit comme si. Hein, ça suffit comme si.
Exactement.
Alors, mon Géliel. Entre Naomi, Finn Balor qui redevient le démon, Montez Ford qui est en feu, il se passe des choses tout le temps en coulisses à SmackDown de toute façon.
Oui, puis c'est sympa. Effectivement, la promo de Montez Ford, elle va bien parce qu'il y a sa femme qui va être. Il y a Bianca Belair qui va faire son homecoming.
Le public est en feu derrière.
Il nous retise aussi le match contre les Usos, donc ça va bien. Derrière Finn Balor aussi, j'ai trouvé ça sympa le fait qu'ils disent que sa motivation, elle était intérieure, que c'était pas forcément quelque chose qui était lié à la famille, etc. J'ai trouvé ça sympa aussi avec la transformation plutôt bien faite. Alors on sait ce que c'est, mais ça marche bien, quoi, avec la transformation en démon. Et puis derrière, on a effectivement Naomi qui arrive pour troisième ou quatrième semaine là où elle se fait rembarrer, mais là elle commence à s'énerver un petit peu. Et alors, on peut peut-être en parler, mais je crois avoir entendu dans les commentaires après qu'elle a, du coup, suite à cette promo un peu musclée qu'elle avait fait auprès de Sonya Deville, elle n'a pas été suspendue ou quelque chose comme ça, ou non, il m'a semblé.
Naomi ?
Ouais, Naomi, il me semble.
Oh bah écoute,
parce qu'elle avait été un peu trop vindicative. Alors, je dis peut-être n'importe quoi, mais il m'avait semblé dans les commentaires après qu'il y avait eu quelque chose de ce style-là.
Non, mais écoute, il y a peut-être eu une histoire, voilà. Mais moi, c'est surtout que Naomi, là, je crois qu'on en est à la troisième ou quatrième semaine consécutive où elle fait exactement le même segment. Moi, si tu veux, c'est surtout ça qui me pose problème, moi.
Clairement.
C'est qu'à la rigueur, qu'elle apparaisse pendant 3-4 semaines consécutives pour teaser un truc et tout. Ouais, bah, bien sûr. Mais en faisant systématiquement la même chose avec le même personnage en face de soi pour demander les mêmes trucs et pour rappeler les mêmes trucs, c'est un petit peu redondant, quoi, tu vois.
Oui, mais là, c'était un peu plus musclé et peut-être que la Naomi face devant l'éternel va peut-être se transformer justement, et si en plus elle est sanctionnée, qu'elle va peut-être trouver de manière injuste, et ben peut-être que on est peut-être en train d'avoir un mini turn heel devant nous, quoi. Je sais pas, ouais, alors c'est peut-être pas hyper bien fait, mais peut-être, je sais pas,
peut-être c'est possible. Enfin bon, en tout cas, affaire à suivre concernant Naomi. On va retourner dans le ring pour ce qui va être notre dernier match de catch de cette soirée, parce qu'en l'occurrence, c'est à nouveau Sami Zayn et Dominique Mysterio qui s'affrontent. Alors pareil, eux aussi, hein, on parlait de choses redondantes. Là, c'est un petit peu le cas encore à SmackDown cette semaine-là. Ça fait quand même 2-3 vendredis de suite où je vois un peu les mêmes choses, les mêmes matchs et les mêmes victoires à des matchs à même effet, quasiment à même timing, puisque à chaque fois, ils sont entre 4 et 7 minutes. Là, on va avoir 6 minutes 5. Alors, c'est plutôt sympa. Le problème, en fait, moi, c'est que vraiment, on a presque un vétéran, j'ai envie de dire, avec Sami Zayn qui déroule un peu et qui délivre la marchandise comme à l'habitude. En face, on a le petit jeune qui n'en veut qu'apprend et qui est suivi par papa. Mais au final, c'est toujours la même chose qui passe, puisque c'est Sami Zayn qui va remporter le match. Finalement, j'ai presque envie de dire assez pépère sur un rythme presque un peu monotone. Victoire de Sami Zayn face à Dominique. Et après le match, Sami Zayn va quand même choper papa Rey Mysterio pour lui dire que bah, son fils, en fait, il est pas prêt, quoi. Et que lui, c'est un mauvais coach, quoi. Alors, sur l'instant, je me suis dit Ray versus Sami, ça, pourquoi pas. Et ça serait intéressant. Mais ça ne peut ne pas aller avec Dominique Mysterio à propos de ça. Alors, Gilles, est-ce que toi aussi, t'as constaté encore une redite d'une redite, quoi, sur ce coup-là?
Bah oui, surtout que ça fait 3 fois, hein, je crois.
Ouais, c'est 3 fois, ouais.
D'ailleurs, c'est ce qu'il fait Sami Zayn à la fin. Il lui dit 3 fois, je crois, à Rey Mysterio, que ça fait 3 fois qu'il gagnait. Par contre, moi, j'ai bien aimé ce qu'a fait Dominique. Il a fait quand même des trucs assez aériens. Il a envoyé des bons moves, hein, quand même, quoi. Il se fait avoir sur un truc de vétéran, un truc de vieux briscard où il traîne trop à monter sur la troisième corde là pour faire son frog splash. Et Sami Zayn a le temps de remonter les genoux pour le contrer, puisqu'il va entraîner derrière le compte de 3. Mais j'ai bien aimé ce qu'a fait Dominique Mysterio. Alors, c'est un peu long, je trouve, la partie apprentissage de la vie versus un heel tout fourbe, tout ça. C'est un peu long, peut-être qu'en 2 fois, ça aurait pu être fait. Surtout que les matchs sont courts. Bon, voilà, on a bien compris, hein, que voilà, il était vert et qu'il fallait lui opposer des vieux méchants pleins de fourberies, etc. Mais voilà, ça développe plus grand chose la troisième fois, quoi. Voilà. Donc voilà.
Ouais, c'est ça. Maintenant, il va falloir donner un peu.
Non, un peu de la profondeur, ouais.
Non, quand même pas. Non, non, mais un peu de la profondeur à cette rivalité là, parce que là, ça commence à devenir vraiment.
Ouais.
Ça perd de l'intérêt, donc quand ça descend en pression comme ça, c'est pas très cool, quoi. C'est pas très intéressant. Donc il faut qu'il nous ramène un peu de sel dans cette affaire, hein. Bon, hein, faut pas déconner quand même. Bon, mon Géliel, c'est ainsi que se termine le catch entre les cordes sur ce SmackDown, puisque après, derrière, c'est parti pour la célébration annoncée de Bianca Belair dans sa bonne ville de Knoxville, dans le Tennessee. Alors là, pop stratosphérique, intergalactique, puisque c'est tout simplement un autre démon dans son style qui va faire son apparition. Un Hall of Famer, en l'occurrence Kane, et qui, accessoirement, est tout simplement le maire de Knoxville. Depuis un moment, hein, déjà, je crois que ça fait un moment qu'il est élu. Hein.
Oui.
Alors, il est sous étiquette républicain, il me semble bien, et comme souvent les catcheurs, d'ailleurs. Et il semble assez populaire, puisqu'il va avoir une très belle pop. Bon, il a surtout une très belle pop, hein, due à son passé de catcheur. Mais voilà, le feu s'allume partout dans Knoxville, Tennessee. Il vient, en fait, ce soir, pour donner tout simplement la clé de la ville à Bianca Belair. Là-dessus, l'ancienne championne, elle va nous expliquer qu'elle va rentrer, hein, sous une pop, hein. Géliel, hein, je pense que t'es d'accord avec moi, quoi. C'était quand même, c'est magnifique. Alors, tu vois, moi, je te le dis tout de suite. En fait, c'est un truc dans lequel je suis assez friand, surtout depuis qu'il y a eu le Covid et qu'on est revenu dans les shows avec public. Moi, je suis toujours assez friand des retours comme ça, hometown, des catcheurs ou catcheuses. Ça promet toujours une belle ambiance. Je me rappelle d'un Monday Night Raw avec Brock Lesnar qui était revenu à Minneapolis alors qu'il était dans un run absolu de heel complètement dévastateur. Et il avait fait un retour fracassant à Minneapolis où il avait été traité comme un babyface le temps d'un soir. Et moi, j'aime bien ce genre d'ambiance. Je trouve que c'est assez cool. Et donc là, on en a profité à bloc. Et donc, gros momentum pour Bianca Belair. Elle dit que le passé construit l'avenir, qu'elle doit sa carrière grâce à son vécu à Knoxville. C'est ici que son père lui a dit un jour que si quelqu'un commence à avoir un problème avec toi, une affaire avec toi, il vaut mieux la conclure et ne rien laisser derrière soi. Si elle s'est fait battre à SummerSlam par Becky Lynch, ce ne sera pas le cas à Extreme Rules parce que c'est une battante. Et alors on a vu aussi des vidéos de Bianca Belair sur son passé parce que ça a été une athlète confirmée. Et donc on aura droit à tout le package pour la Bianca Belair. Kane va remettre une énorme clé à Bianca Belair et là-dessus, Becky Lynch arrive un peu en mode Kill Bill, un haut jaune flashy sur un pantalon cuir noir. Attention la Becky avec un petit peu un changement de coupe, avec une mine un peu pas patibulaire mais presque. Et elle va interrompre la cérémonie, elle va se moquer de Bianca Belair, elle va lui affirmer qu'elle ne la vaincra pas au prochain pay-per-view. Bianca, en fait, elle ne comprend pas pourquoi elle vient la voir dans cette soirée, elle n'était pas invitée. Becky, elle lui explique justement que comme c'est sa soirée, elle est venue lui montrer tout le respect qu'elle lui doit et elle va lui tendre la main. Bianca va un peu tergiverser, mais elle va accepter, mais elle ne va pas lâcher la main de Becky. Et pour reprendre sa main, Becky va tenter une clothesline, ratée. Bianca esquive, tente son KOD, Becky Lynch revient sur ses pieds et termine le show avec son Uranagi contre Bianca Belair qui termine au sol. Ainsi se clôture ce Friday Night SmackDown sur l'image d'une Becky championne et triomphante. Tout ça à Knoxville, Tennessee. Bianca Belair humiliée, Bianca Belair martyrisée, Bianca Belair victimisée, mon Géliel.
Après, je te rejoins. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé l'entrée de Kane. Je pense que ça faisait plaisir à tout le monde de voir Kane, et puis il était attendu à Knoxville. Je pense qu'il s'est aussi bien fait plaisir quand il a ressorti le gimmick là pour que les quatre coins des rings s'enflamment. Moment super sympa de voir les anciens comme ça mis en avant par la WWE. Enfin, c'était évident, mais ça marche bien. La promo de Bianca Belair qui a commencé à chanter avec le public, etc. Elle a pris une pop, comme tu disais, assez folle et méritée, évidemment, puisqu'elle a vu tous les exploits qu'elle a fait sportifs à l'université de Knoxville. Derrière, il y a Becky Lynch qui arrive. Alors effectivement, comme tu l'as dit, entre la coupe, l'habit, tout est fait maintenant quand même pour la positionner très très heel, quoi.
Je te coupe juste une seconde parce que j'avais une question à te poser et que j'ai oublié de te poser. J'ai trouvé qu'il y a eu un moment dans la promo de Becky qu'elle avait été mise un peu en difficulté par le public. Est-ce que tu l'as ressenti comme moi aussi, quoi?
Elle n'arrivait pas à parler, en fait. Elle a dû hausser le ton. Elle n'arrivait pas à placer sa promo parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de bruit dans le public. Elle a dû plusieurs fois. Alors, elle n'a pas dit de se taire comme certains, il aurait pu le faire, autres. Mais elle a dû quand même hausser le ton, parler la voix et puis sortir de la promo pour demander le silence, quoi.
Pour s'imposer.
Tout à fait. C'est pas si simple que ça, le heel Becky Lynch pour le moment, je trouve. Pas si simple. Alors là,
moi j'ai un autre avis là-dessus, mais.
Ah ouais?
Ouais, parce que moi je la vois pas vraiment comme un heel en fait, Becky Lynch. En fait, Becky Lynch elle est dans un personnage un peu à la Stone Cold, elle est quand même tweener. Et parce qu'elle est aimée malgré tout, malgré toutes ses actions. Remember quand elle était revenue déjà à l'époque du Rumble, des fameux Survivor Series où elle avait terminé en sang et tout ça. Et j'ai la sensation que c'est un personnage tweener et que c'est un des très très rares de la WWE.
Oui, parce qu'ils arrivent, parce qu'ils arrivent pas à la mettre heel complet, quoi. Alors après, est-ce que, Roman Reigns aurait pu finir comme ça aussi, hein. Mais le talent de Roman Reigns derrière le micro sur son heel turn fait que maintenant il n'y a plus personne qui va le chercher sur ce côté tweener, quoi. Alors peut-être que, tu vois, quand elle est obligée de hausser le ton pour se faire respecter son personnage et son alignement. C'est aussi parce qu'il manque peut-être aujourd'hui encore quelque chose à Becky Lynch pour s'affirmer complètement en tant que heel respecté dans le dans le gimmick, quoi, dans l'alignement catch. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est encore un peu tweener. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui satisfasse beaucoup, d'ailleurs, la WWE, qu'elle n'arrive pas à s'imposer ou qu'on continue à la voir comme une tweener, comme une face, plus tout à fait face, mais en tout cas qu'on a du mal à la voir imposée comme une vraie heel, quoi.
Ouais, mais moi c'est marrant, ça me dérange pas, quoi. Moi c'est vraiment un truc qui me pose pas de problème. Même si la WWE sait pas trop sur quel pied danser par moment, et ben au final ça me dérange pas parce que. Mais moi en fait j'ai aimé qu'elle soit un peu déstabilisée par le public. J'ai trouvé que c'était cool ce passage-là. J'ai dit il y a la faille là parce que il y avait une faille pour la première fois elle avait quand même un public malgré tout hostile. Elle avait un public qui était là pour Bianca Belair, qui voulait voir Bianca Belair, qui voulait entendre Bianca Belair. Et la fille du pays était à la maison, donc fallait pas déconner, quoi. Et au final, c'est couillu. Moi, je trouve la WWE, il termine, c'est Bianca Belair qui Becky Lynch qui prend le dessus et qui tabasse, qui met un Uranagi dédicace à ringside et un Uranagi à Bianca Belair. Donc c'était plutôt, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal foutu, moi. Moi, je l'avoue que j'ai trouvé ça plutôt pas
là,
mal foutu.
Je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit couillu de proposer que la WWE proposait ça à Knoxville contre Bianca Belair, c'est-à-dire que ce soit finalement Becky Lynch qui parte la tête haute après avoir mis un gros coup à Bianca, quoi, parce que c'était plus simple.
C'était plus simple.
Oui, mais c'était plus simple de finalement que ce soit Bianca qui, devant son public, avec Kane, mette une patate à Becky Lynch et que ça se termine là-dessus et tout le monde était content au final. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Finalement, c'était pas plus mal.
Ouais, c'était cool. Alors, et on aura, je l'ai pas précisé, mais on aura pendant ce SmackDown, à la fin d'ailleurs, une annonce pour Monday Night Raw. Alors ça va ravir tous les adeptes du show rouge. On a un énorme match annoncé, puisque tout simplement on va avoir la Bloodline au complet qui va affronter le New Day au complet, mon Géliel. Et ça, c'est une belle nouvelle pour Monday Night Raw. Du Star Power à Monday Night Raw, mon Géliel.
Ouais, carrément. Alors, on l'a pas trop vu annoncé, on l'a juste vu comme ça sur une petite vignette. Enfin,
sur une vignette,
j'ai raté, quoi. Sinon, on sent que ça va être le gros truc. Et puis, ça confirme aussi un peu ce que je commençais à apprécier avec les. Alors, peut-être que c'est pré-draft, hein, mais le fait que ça aille un peu à gauche, à droite, Euro, SmackDown, etc. Puisque là, on va voir finalement Arrow. La Bloodline de SmackDown a défié des catcheurs d'Euro, donc moi j'aime beaucoup. Et puis en plus, le six-man tag team match, quoi. Il y a du très 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 lourd là, quoi.
Et alors c'est fou, voilà. Voilà, ils annoncent un truc comme ça et c'est assez incroyable. Alors le public de Knoxville, Tennessee, hein, je finirai un peu là-dessus. Il a été pas mal gâté parce qu'il a eu droit à pas mal de dark match. Et du coup, il est déjà des dark match toujours un peu étranges parfois parce que on avait par exemple, il y a eu un Riddick Moss ressorti de Raw Underground qui a affronté Odyssey Jones, qui est un catcheur de NXT qui a été en finale du Breakout Tournament, si je ne m'abuse. Et Xayali, alors moi, Xayali, je kiffe à mort. Et qui a battu Aliyah, qui est une jobbeuse attitrée. Et Xayali, qu'est-ce que j'aime Xayali. J'espère que si elle va vraiment dans le main roster, elle va y aller, je pense. De toute façon, j'espère qu'elle va avoir un vrai impact parce que vraiment, j'adore cette fille. C'est une de mes catcheuses préférées à la WWE en ce moment. Et le dernier dark match dont je voulais parler quand même, mon Géliel, on l'a un peu évoqué hors antenne, c'est Keith Lee. Puisque Keith Lee, peuple de catch-up, is alive. Et Keith Lee fait des dark matchs toutes les semaines quasiment. Et il affronte tout le temps des mecs différents et souvent des crevettes. En l'occurrence, là, il a affronté Shane Thorne. Alors Shane Thorne, si vous vous demandez qui c'est tout simplement le mec qui portait le masque blanc qui était la crevette du groupe Retribution, Feu Retribution. Dorénavant, il y a Mace et T-Bar qui sont du côté de Monday Night Raw en tag team. Et puis Mustafa Ali, lui, qui est parti du côté de Mansour. Donc tout ça, ça a éclaté. Mais il fait encore des dark match et il se fait tabasser par Keith Lee. Et il y a eu, enfin, pour terminer ce SmackDown, vous saurez comme ça tout des dark match de SmackDown. Il y a eu un dark non-title match entre Bianca Belair et Becky Lynch et victoire de Bianca Belair, Géliel. Voilà comment ça se passe à SmackDown. Le public de Knoxville, Tennessee, on peut le dire, aura été gâté. On a tous en nous quelque chose du Tennessee, je crois, ce soir.
Et du coup, effectivement, du coup, le public a pu être content de voir Bianca Belair gagner, du coup. Voilà. Bon, très bien.
Et oui, voilà, on a eu la partie dark, dans le sens, mais vraiment obscur, de la fin du show TV. Mais le public de Knoxville, lui, a terminé sa soirée sur un feel-good moment avec une victoire de Bianca Belair. Donc, tout se termine dans le meilleur des mondes, dans le monde merveilleux du show bleu. Et c'est là-dessus qu'on enchaîne magnifiquement pour lancer le top, le flop et la note de notre archange blanc.
Alors mon top, ça va être vite fait, hein, ça va être le match d'intro entre les Usos et puis Finn Balor et Big E. Gros match, 13 minutes, ça a tapé dans tous les sens, 12 minutes je crois. Vraiment très 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 sympa, très très sympa. Et puis victoire de Balor et Big E qui va bien. Donc mon top. Mon flop, l'espèce de... Alors, j'en ai plusieurs avec Kevin Owens, etc. Mais je vais quand même le mettre à l'espèce de caricature de match des filles là, avec Carmella et sa voix insupportable qui donne la victoire par disqualification à Morgan et Storm là, sur son espèce de truc au nez, enfin horrible. Et puis ma note, j'ai trouvé un peu moins saignant que les semaines précédentes ce SmackDown. Donc vu que j'étais monté jusqu'à 4 je crois la semaine dernière, je vais redescendre un petit peu à 3,25, ce qui reste une bonne note, mais qui marque aussi le fait que voilà, il était peut-être un peu moins bon pour moi que les précédents. Voilà.
J'avais également mis une belle note la semaine dernière. Cette semaine, je vais mettre mon flop un peu, un espèce de truc un peu général, puisque je vais mettre mon flop au Reddit. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a eu ce SmackDown là, et il faut pas qu'il tombe dans les travers de Monday Night Raw où ça se passe souvent comme ça. Donc, au bout de la deuxième, troisième, quatrième fois qu'on voit des matchs entre les mêmes Gus, voilà, Rick Boogs qui affronte Roode, Ziggler et compagnie. Pareil avec, c'est quel match, Sami Zayn et Dominic Mysterio, tu vois.
Ouais, trois fois, on a
eu beaucoup de redites. Alors, évidemment, à côté de ça, ils sont capables de sortir des gros matchs comme le Big E Finn Balor, le tag team d'entrée quoi, de l'opener que j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est vraiment mon flop. Il va à ça, il va à ce truc de redites. Je trouve qu'on peut faire des angles deux fois. Je vais reprendre l'exemple de Naomi, quoi. Où Naomi, c'est vraiment strictement la même chose pendant trois semaines. Et du coup, je trouve que c'est un petit chouïa agaçant. Voilà, j'ai eu quelques petites traces du show rouge.
Facilité, là.
Voilà, ouais. C'était un petit peu trop paresseux finalement, tu vois. Et donc, j'attends autre chose là-dessus. Après, ça sera mon flop. Et mon top, bah, c'est pareil, je vais le donner un peu d'une manière générale, puisque je vais le donner au fil rouge. Même si j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai beaucoup aimé le truc entre Bianca Belair et Becky Lynch, mais je vais le donner au fil rouge, tout ce qui se passe avec Roman Reigns, Paul Heyman, les Usos, du coup, en plus ça provoque des matchs comme ce tag team en opener et tout ça, ça a des impacts sur le show à plusieurs moments du show, et ça c'est toujours intéressant. Je trouve que tout ça c'est super bien vendu, vraiment moi la rivalité avec Finn Balor, le match je l'attends avec impatience, le match à Extreme Rules, ça me plaît beaucoup, je suis assez curieux de savoir ce qu'ils vont faire au niveau de la passation ou pas du titre, mais je reste vachement hypé sur ce qui se passe dans la title picture du main event de Friday Night SmackDown. Donc, voilà, mon top va à ça. Et puis ma note va être effectivement une moins bonne note que la semaine dernière. C'était moins enlevé que la semaine dernière. On en était peut-être qu'à deux redites la semaine dernière. Là, on en est à 3 ou 4. Donc là, ça commence à faire beaucoup. J'attends un peu autre chose. Je me dis que c'était le dernier SmackDown avant la semaine du Go Home Show pour Extreme Rules. Donc vendredi prochain, je pense qu'on va avoir un beau programme. Je pense que le peuple de catch-up surveillait du coin de l'œil ce qui va se passer du côté du titre intercontinental, à mon avis. Donc pour cette semaine, moi je vais lui donner un 3. Voilà, pour moi c'est une note sympa. Enfin, c'était sympa, ça se regardait facilement, c'était tranquillou. Et il me semble bien que j'ai vu un vieillard passer devant les vitres du studio. Mais est-ce qu'il est visible? Est-ce qu'il est entendable, ce vieillard?
Allô? Allô?
Oh, c'est l'insubmersible, c'est l'indestructible, c'est le papy. Salut papy Boeington.
Bonjour les petits-enfants, je suis venu juste pour le top flop note, je suis sympa quand même.
Ah bah écoute, on est en train de dire que la WWE était paresseuse, et bah voilà, écoute, tu es exactement dans le thème.
Voilà, moi je suis le roi de la paresse, et puis je vous rejoins, donc du coup j'écouterai quand même votre review avec une grande attention, et je suis impatient de qu'elle sorte pour que je puisse l'entendre.
Eh ben écoute, et ça tu tombes, mais alors vraiment parfaitement bien, quel timing, ce Pavi, puisque on venait, Géliel et moi, de donner notre top flop note. Donc, tu as la parole.
Bah, du coup, je me souviens plus de ce qui s'est passé dans ce film-là, dans ce McDonald's-là. Est-ce que c'est le truc avec Bobby Lashley et tout ça? Non, ça
aucun rapport. Ah non, c'est pas ça, non.
Ah non.
C'est dans la version rouge de la discipline. Là, c'est là, t'es dans la version bleue, là. C'est pilule rouge ou pilule bleue? Aujourd'hui, c'est pilule bleue.
Ok, pilule bleue, hop, je la mets. Donc j'écoute un peu. Du coup, j'ai entendu que le mot de la fin de tonton. Globalement, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de redites. J'ai l'impression en fait qu'ils avaient. Mon impression perso, c'est que la semaine dernière, si j'ai pas de conneries, c'était le Madison Square Garden.
Oui.
Et durant cet épisode un peu spécial, ils avaient un peu tout foutu de côté comme storyline. Et puis du coup, ils ont tout ressorti là pour ce show-là en mettant tout là où c'était resté. Quoi. Donc effectivement, il y a un léger sentiment de redite. Du coup, si je devais donner un top, moi je le donnerais. Alors là, je vais être totalement original, je pense. Je le donne à Liv Morgan parce que je trouve qu'elle fait enfin quelque chose, même si c'est pas encore Jojo. Je trouve ça bien qu'ils essaient de faire quelque chose dans la division féminine autre que pour le titre suprême.
Mais je suis pas donc, tout seul là-dessus, je suis content.
Donc voilà, non, bah, tant mieux alors. C'est du bien, voilà, JL. Je savais que tu étais un brave gars, toi. Non, mais en fait, j'ai souvent reproché aux filles en fait, d'avoir juste les rivalités pour le main event et rien derrière, quoi. Et là, bah, y a le petit livre là, qui, bon, ça casse pas trois pattes à canard, mais au moins elle enchaîne quelques semaines, elle a un petit peu de pop, tout ça. Donc c'est bien de travailler ça, c'est bien pour elle aussi. Naomi, j'ai entendu t'en parler que ça faisait une redite. Oui, effectivement, mais bon, la chance qu'elle est comme au bord du turn, là, ça a tombé, là. Donc, elle a été soi-disant sanctionnée par Sonya Deville. Je pense que c'est bon, là, elle va y aller, quoi. Et donc voilà. Et puis, Liv Morgan, bon, on l'aura donc la semaine prochaine face à Zelina Vega et au pay-per-view contre Carmella. Donc là, c'est pas de la mise en avant. Je sais pas ce qu'il faut, hein. Mon flop, je le donnais à Kevin Owens versus Baron Corbin. Enfin, la petite rivalité là, parce qu'ils ont fait un petit rappel, mais j'ai pas trouvé le rappel super impactant. Enfin, ouais, Puis en plus, du coup, le Baron là, qui était soi-disant super bonnard, tout ça, super heureux, bah, il fait juste une attaque de vieux huile comme il faisait comme avant. Donc, je trouve ça. À la limite, je m'en serais bien passé fièrement ce segment là, quitte à faire un rappel comme ça qui était pas terrible. Et puis ma note, du coup, je pense comme vous, c'est un poil moins emballant que les autres semaines. La faute aussi à des histoires qui se répètent. Et donc, du coup, je donnais un petit 3.
Okay, tu vois, on est raccord. Moi, j'ai mis un 3 aussi. Et Géliel a été un petit peu plus généreux. Mais c'était on a baissé un petit peu. Mais bon, les standards du show bleu restent élevés, quoi, malgré tout. Hein.
La bonne cam, hein.
Mais clairement.
Le plus grand show de catch du monde, le plus grand show weekly du monde. Ah, la WWE serait heureux de renvoyer nous un chèque, merde. Ouais, nous, on bosse quand même, là. Hein. Il faut pas déconner, quoi. On est en direct live, là. Vous rendez pas compte, quoi. En direct de Knoxville, Tennessee. Ça coûte un bras, tout ça, quoi. Hein. Donc, les gars, il est temps quand même que la WWE nous donne quelques subsides. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi?
Bah, pourquoi on a que des chèques de Tony Khan, là? Pourquoi on n'en aurait pas la WWE aussi?
Non, ouais. Il pense qu'on est honnête, mais on prend les deux, hein, vous inquiétez pas.
Ah mais ouais, non mais nous on est prêt à bosser pour tout le monde, quoi.
C'est un malentendu.
C'est clair. Alors, tout ce SmackDown, ça s'oriente, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la semaine prochaine sur une semaine de Go Home Show qui va être assez velue, je pense, même à Monday Night Raw, puisque là, le programme qui s'annonce à Monday Night Raw a l'air assez sympa. Extreme Rules, ça se passe le 26 septembre. Le pay-per-view du mois d'octobre sera donc Crown Jewel. Et derrière, comme ça, pas beau, Crown Jewel. Et que de mauvais souvenirs dans ce pay-per-view. Et depuis qu'il existe, et on pensait peut-être qu'il n'existerait plus, mais c'est raté. Les millions de dollars saoudiens ont turbiné, quoi. Hein. Et puis, bah voilà, c'est reparti. La WWE retourne au Moyen-Orient dans les conditions qu'on connaît. Et. Une fois Crown Jewel sera évacué, parce que on en a parlé un petit peu avec Géliel, papy, c'est un peu le pay-per-view où il s'y passe tout, mais en fait il s'y passe rien du tout, quoi. Donc donc du coup vraiment là on est lancé, je pense. Je sais pas si tu nous rejoins, mais on est un peu, parce que Biggie l'a évoqué, donc gloire à Biggie, et on est un peu Road to Summer Survivor Series là quand même là pour cet automne.
C'est le gros pay-per-view qui nous attend. Je dis c'est de fin d'année, quoi, de toute façon. Hein. C'est le dernier des quatre gros qu'on va se taper.
C'est le dernier des quatre gros. Est-ce que le dernier, c'est TLC?
Ah, ouais, voilà. Et
Et du coup, ouais, je ne sais pas si c'est pas une fausse piste, histoire de Biggie, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on sait déjà que Reigns va affronter Baylor Extreme Rules, qu'il va affronter Lesnar, c'est sûr, au truc Crown Jewel, ça a été confirmé. Et donc, il affronterait déjà Biggie au tournoi en série. Là. Il y aura déjà ces trois matchs déjà bookés, l'ami Reigns. C'est un peu.
Ah, ça dépend, parce que. Ah, moi, je pense qu'il y a plusieurs pistes en fait, parce qu'il y a des possibilités aussi de faire le fameux match à élimination avec une team Biggie, une team Roman. Il y a peut-être, tu vois, il y a peut-être différents trucs.
Moi, je pense que les deux perdent leur titre.
Pourquoi pas ? Mais il y a, hein. j'ai lié aussi. Enfin, je pense qu'on avait évoqué plusieurs pistes, quoi.
Alors, effectivement, il y a plusieurs pistes. Moi, ce que je crains, c'est que la WWE ne parte jamais sur des trucs aussi. Aussi compliqué et qui ils vont nous garder du Reigns qui va battre tout le monde et puis voilà et à mon grand désespoir pour Finn Balor au passage quoi parce que je pense que ça va être ça et ça va me faire beaucoup de peine
donc tu penses que Finn Balor qui va être pénalisé en fait par ce booking là quoi
ouais clairement on verra
moi je pense que je me demande si c'est pas une fausse piste et que parce que en fait le Biggie qui se balade sur les deux shows là ça a vachement perturbé les je pensais vraiment qu'il était parti à Raw définitivement moi.
Oui,
et le voir encore finalement il a encore affilié SmackDown en fait. Il va à Raw pour en tant que champion. Du coup, ça ouvre plein de pistes que j'ai pas imaginé. Donc du coup, je suis dans mes pronos, je m'avance plus sur rien là.
McAfee explique, hein, il dit bien que que Biggie il est là parce qu'en fait il est toujours officiellement membre du roster de SmackDown malgré qu'il ait le titre de Raw.
C'est ça.
Mais donc c'est comme ça qu'il est présenté quoi. Pat McAfee d'ailleurs, hein, Pat McAfee, mais c'était. Ah, à peuple de catch-up pour ceux qui nous rejoignent, si on a peut-être des petits nouveaux. Pour la plupart, en tous, on regarde les shows en version originale du coup. Et donc le commentateur Pat McAfee, vraiment moi c'est un régal. Je ne cesse de louanger cet homme depuis qu'il est arrivé au commentaire de ce Friday Night SmackDown parce que c'est génial tout le passage là avec Becky Lynch et Bianca il est excellent tout ce qui se passe avec Boogs Nakamura et compagnie pareil comment il termine debout sur la table et tout enfin moi franchement je kiffe ce garçon
il met de l'envie en tout cas en plus ça qui est intéressant c'est qu'il
ambiance
dans les poches tu sens comme qu'il connaît un peu ses dossiers quoi
et il ambiance et tout le show enfin vraiment moi je ne tarie pas d'éloge sur ce mister là quoi. Donc vraiment le show SmackDown c'est archi solide quoi et je pense qu'on va avoir un beau go home show parce que je suis sûr qu'ils vont nous sortir un match pour le titre vraiment l'intercontinental, je le sens arriver à 10 000 là et voilà, sur la carte de Extreme Rules, il va peut-être y avoir entre 7 et 9 matchs, donc peut-être 7 matchs, ouais, et puis 7 matchs ça me paraît pas beaucoup, ouais.
L'intercontinental c'est annoncé de toute façon hein, qu'il sera à SmackDown.
C'est annoncé qu'il sera à SmackDown ?
Oui, c'est annoncé.
Ah ouais ?
Ça sera Nakamura contre machin.
Comment Apollo.
Apollo Crews.
Ah bah tu vois, papy, t'as bien fait d'arriver même un peu à la bourre. Et bah voilà, tu nous donnes une info parce qu'on ne l'avait pas cette info là, quoi. Donc,
mais si c'est spoiler, il y aura lieu à SmackDown.
Ah d'accord. Bon bah voilà, bah ça nous garantit un prochain SmackDown, un Gome Show de la semaine prochaine à ne pas manquer. Voilà, peuple de catch-up, ce qu'il ne faut pas manquer non plus, c'est tous les lieux où vous pouvez nous trouver et venir écouter ou partager avec nous tout ce qui se passe sur la communauté catch-up. Cette communauté, vous la trouvez sur Discord. Vous pouvez trouver ça sous la vidéo YouTube où vous pouvez laisser des commentaires et laisser des likes. Tous les liens sont dans la description concernant le Discord. On est sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, le site catchup.lepodcast.fr. Je vais pouvoir remercier mon tag team partner qui s'est transformé en triple frite avec l'arrivée du papy Bovington. Mon papy, merci beaucoup de ce retard et de cette présence.
Ben, merci surtout de m'avoir accueilli malgré mon énorme retard et puis bravo aussi à Gilles d'avoir tenu la baraque. Ah, ils sont bien ces nouveaux finalement.
Ouais, c'est l'archange blanc Géliel. Formidable, écoute, on a vraiment une tag team, comme je l'ai dit en début de review, tu verras. Du haut de cette review, un siècle vous contemple. Donc mon Géliel, merci beaucoup, mes amitiés aux milléniaux.
Ben écoute, merci tonton, merci papy. Le timing pour les flancs Mireille à la cantine de l'EHPAD, il est quand même meilleur que celui pour arriver pour les reviews. Mais en tout cas, c'était cool de t'avoir. Le millennial Gen Z, bah, il devait être là, puis il n'a pas pu être là, mais il essaiera d'être là. Et puis voilà, en tout cas, c'était très cool. Merci à toi, tonton, encore. Et puis, merci à tous les auditeurs pour cette review de qualité. J'espère qu'elle vous plaira.
Pas de raison que ça se passe autrement.
On veut des pouces.
On veut des pouces. Eh ben, bah, écoutez, c'est sur ces bons mots, peuple de catch-up, qu'on va vous laisser. On vous souhaite une bonne semaine, pleine de catch, on vous fait des bilous, on vous fait les corps à linge, plein la face, bande de salopards. Salut papy.
Salut tonton, salut Géliel.
Salut Géliel.
Salut tonton, salut papy.
Salut les gaziers, et salut peuple de catch-up.
Un truc au fond de la gorge, là, tonton, hein. Ça accroche.